Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nicolas Lesage. Bonjour.
Bonjour.
Alors Nicolas Lesage, vous êtes ici pour nous présenter Réenchantaire. Alors, quelle est cette poésie ?
Alors en fait, c'est mon activité actuelle qui commence depuis quelques mois. Et c'est une proposition d'atelier de jardinage écologique, d'une part, et d'autre part, d'accompagnement pour les personnes qui le souhaitent, chez elles, pour créer leur jardin de façon un peu différente de ce qui est proposé assez traditionnellement. Voilà.
Alors oui, comme vous le dites, du jardinage à domicile, hein, chez les particuliers, je suppose. Et puis animation agroécologique. Alors comment vous arrivez à concilier ça, justement, le gros défaut de beaucoup de jardiniers d'agrément, hein, je dirais, avait la problématique d'utilisation de pesticides ou d'herbicides. Est-ce que ça, c'est aussi une approche pédagogique ?
Oui, parce qu'en fait, moi, je suis animateur en agroécologie et j'ai choisi pour l'instant d'essayer de participer à l'évolution des pratiques à mon niveau en lançant cette activité. Et effectivement, les personnes qui m'appellent chez elles, il y a un gros volet pédagogique parce que mon but, c'est qu'elles soient autonomes, mais c'est pas que moi, j'aille chez elles tout le temps, forcément. C'est vraiment qu'il se passe quelque chose et qu'elles comprennent le fonctionnement du vivant, enfin de ce que moi j'en vois pour l'instant, et qu'elles l'intègrent à leur pratique en fait pour mieux respecter le sol, ce qu'ils font pousser et du coup par là même l'humain, parce que tout est relié pour moi. Voilà.
Pour être jardinier, il faut être heureux.
Ben en tout cas moi le jardin m'a re-rendu heureux, on va dire. Et j'étais dans une petite phase un peu basse de ma vie et mettre les mains dans la terre, ça a remis de la lumière dans ce que je faisais. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai envie d'éventuellement proposer ma vision du jardin qui m'apporte beaucoup de joie, voilà.
Actuellement, vous avez certainement un jardin. Est-ce qu'on peut l'observer, le visiter ?
En fait, j'ai une petite parcelle au Potager Gérard, qui est l'association de jardins familiaux et partagés de Die. Et cette année, ça a été assez compliqué pour mon propre jardin parce que j'ai eu un bébé et que voilà, il est pas dans une forme extraordinaire en fin de saison. Mais effectivement, je pourrais faire visiter si besoin et expliquer certaines choses. En tout cas, voilà.
Vous pratiquez le jardinage depuis combien de temps vous-même ? Et depuis quand vous vous intéressez à cette agroécologie ?
Alors l'agroécologie, ça doit faire plus de 10 ans, je pense. Et avant, j'étais dans une vie relativement conventionnelle avec... j'étais aide-soignant et j'étais dans un fonctionnement qui ne me satisfaisait plus vers la fin, vraiment, parce que je ne savais plus pourquoi je faisais ce travail. Sinon, pour payer l'essence ou le logement où j'habitais pour aller au travail. Et je m'étais imprégné de pas mal de lectures et aussi de films sur justement ces différentes pratiques, et notamment beaucoup avec des choses autour de Pierre Rabhi. Et ça m'a fait vraiment bouger par rapport à la Terre, à une vision globale qu'on pourrait avoir de ce qui se passe justement dans ce que fait l'homme sur ses pratiques pour se nourrir. Et petit à petit, j'en suis venu à me dire... que j'avais envie de faire autre chose et de participer à quelque chose de plus positif, selon moi, que juste gagner des sous et être là, poser et attendre la retraite et la mort. Et du coup, par rapport à votre question sur le jardinage, ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai fait du woofing et que j'ai visité pas mal d'écolieux. J'ai participé à des jardins, créé des jardins. Et ça s'est terminé par du coup la formation d'animateur en agroécologie chez Terre et Humanisme, donc l'association créée par Pierre Rabhi. Et là vraiment ça m'a permis de pouvoir concrétiser tout ce que j'avais vu et de voilà de le matérialiser dans une activité.
Alors vous abordez le jardinage, mais est-ce que c'est le jardinage qui cultive l'humain chez vous?
Est-ce que c'est le jardinage qui cultive l'humain? Bah, c'est complètement interrelié, c'est les deux facettes. Et en fait, que ce soit la permaculture ou l'agroécologie, c'est des visions tellement qui proposent une reconnexion à la terre et au vivant, qu'en fait, vraiment, c'est si je prends soin de la terre, et ben je gagne beaucoup, j'ai l'impression. Alors que si je la maltraite ou si je l'exploite, c'est un mot qu'on entend très souvent. Même si c'est important de se nourrir et d'avoir une production, je pense que c'est vraiment pas le même rapport. Et moi, personnellement, je vois que si j'ai l'impression de faire partie de tout ça, je me sens beaucoup mieux que si juste j'ai l'impression d'avoir une sorte de supermarché à l'extérieur. Mais enfin, c'est vraiment pas le même rapport, quoi.
On va aborder aussi la teneur des animations et ateliers. Vous me proposez même des stages en agroécologie et puis des jeux pédagogiques avec ça. Un premier chapitre, le retour de la vie du sol. Je suppose que vous avez affaire à des terres qui n'ont plus de vie à cause de traitements. Comment ça se passe alors?
Ça se passe qu'en fait, déjà la première chose, c'est constater justement l'état du sol. On peut observer, mais ça... Tout le monde peut le faire. J'ai l'impression vraiment que c'est facile à un certain niveau parce que si on regarde vraiment, on peut sentir si le sol, il y a quelque chose de vivant ou pas. Et après, rien que de faire un peu des trous et regarder l'état du sol, on voit s'il y a de la vie dedans ou pas. Et on a eu une période là d'abord du sol par les humains où tout ce qui était un peu vivant, j'ai l'impression que c'était mal vu et il y avait une sorte de peur comme ça. Qui est encore là, hein, beaucoup. Alors que voilà, ce qui est transmis par l'agroécologie et la permaculture, c'est que plus il y a de vie et plus il y a d'espèces, d'animaux et de plantes différentes sur un site et dans un sol, plus c'est sain, en fait. Et moins il y a de maladies. C'est quand on limite vraiment la vie à peu de variétés que là, il y a des problèmes parce que voilà, il y a des maladies qui attaquent cette seule variété qui vont arriver, qui vont tout dévaster. Il n'y a pas de réponse de l'écosystème à une attaque extérieure. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'attaque dans un système qui est équilibré, où il y a de la diversité, et c'est comme les humains. Si on sait s'écouter et être ensemble avec nos différences, c'est beaucoup plus dur de déstabiliser quelque chose comme ça que si on est tous pareils, en fait. Voilà.
Vous avez un sol complètement aride, sec, sans vie. Comment vous procédez pour redonner un peu de foisonnement sur ce sol?
Alors il y a beaucoup de techniques qui ont été élaborées justement suite à ces philosophies d'observation de la nature et de la vie. Et la première chose à faire et peut-être à transmettre, c'est qu'un sol, un sol est censé être couvert. C'est-à-dire que si on observe la nature, il n'y a aucun sol découvert, enfin, sauf dans le désert ou à des endroits rares. Mais s'il y a de l'humidité et de la vie, le sol est couvert. C'est l'exemple souvent qu'on met en avant, c'est la forêt. Dans un potager, on ne va pas essayer d'imiter la forêt, parce que ce n'est pas exactement le milieu qu'on vise, mais c'est le stade un petit peu avant, où là, il y a une couverture de sol importante qui permet à la vie de vivre en dessous et à l'eau de rester, à tout ça, de pouvoir être protégé des éléments aussi qui, sur une terre nue, se déchaînent voilà, sur la terre. Et ça fait une croûte et c'est extrêmement compliqué de faire pousser des choses là-dedans. Et pourtant, c'est ce qu'on fait depuis longtemps, donc à grand renfort de produits et de grosses mains d'œuvre parce que la nature est assez généreuse et que là, on est dans un système de lutte et qu'il y a peut-être autre chose à faire. Même si, en laissant tout faire, tout pousser, c'est pas non plus comme ça qu'on peut se nourrir, mais il y a un juste milieu.
Je vois que vous utilisez donc des techniques de paillage, des buttes auto-fertiles et les lasagnes. Alors c'est quoi des lasagnes en termes de jardinage ?
En termes de jardinage, c'est la même image qu'en cuisine, c'est-à-dire que c'est des couches différentes de matière organique. Justement, ça rejoint votre question du début, c'est pour recréer du sol et de la vie. Et là, du coup, c'est une alternance de couches de matière brune, comme on dit souvent, c'est-à-dire que tout ce qui est ligneux, ça peut être des feuilles, de la paille, et des matières plus vertes, donc quelque chose de plus frais, des feuilles toutes fraîches, ou de la pelouse, ou même les résidus de légumes, de ce qu'on n'a pas mangé. Et en faisant ces couches, c'est un peu comme le processus du compost, la vie revient peu à peu et c'est décomposé par les animaux qui sont les animaux, les champignons et ce qui se trouve dans le sol en fait, qui vont ensemble recréer de la vie et un système viable pour un sol vivant. Voilà.
Voilà, donc le processus que vous allez aussi animer, c'est-à-dire le recyclage végétal avec une présentation de compost, lombricompost. On pourra peut-être définir en détail ce que c'est le lombricompost.
Alors le lombricompost, c'est une façon de composter qui est adaptée aux appartements. C'est sur une toute petite surface, en fait, ça peut se faire dans des caisses. Et ça permet, voilà, si on n'a pas de jardin au pied de la maison ou de l'appartement, parce qu'on vit en immeuble ou je ne sais où, ou à l'étage, de tout de suite mettre ces résidus d'alimentation végétaux dans une caisse. Avec des petits vers dedans, donc c'est une sorte d'élevage de vers, et ces vers vont transformer nos résidus en compost. Voilà, il suffit d'équilibrer avec des matières, comme dans ce que je viens de dire avant, plus brunes. C'est souvent du carton et du papier qu'on peut mettre dans ce genre de bac, donc ça recycle ça aussi. Et voilà, le lombricompost c'est ça, et plus exactement on pourrait dire vermicompost parce que c'est pas exactement des lombriques qui sont dedans, si... C'est Zenia fetida, c'est une variété de vers qu'on peut retrouver plutôt dans les surfaces superficielles du sol. Voilà.
Vous proposez aussi donc, une construction de bac, hein, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que c'est possible dans ce que je propose, si c'est ça peut être une solution pour des gens fatigués, qui ont mal au dos ou des personnes âgées, voilà, qui préfèrent jardiner en hauteur. Et ça peut permettre à des gens qui sont en retraite, qui étaient passionnés de jardin, qui aimeraient continuer mais qui peuvent plus baisser, de continuer. Et voilà, on peut faire toutes sortes de bacs, même des bacs adaptés aux chaises roulantes. Il y a plein de choses possibles.
Et puis, on va passer à la coopération avec la nature. Donc là, vous donnez quelques indications, association des végétaux, c'est-à-dire quelles plantes utiliser est compatible avec d'autres. Vous pouvez en citer un exemple ?
L'exemple qui est très souvent cité, c'est les trois sœurs. C'est-à-dire que c'est une technique qui a été élaborée en Amérique du Sud et c'est assez ancestral. Et donc, c'est planter du maïs avec du haricot et une courge, en fait. Donc, c'est des variétés assez spécifiques. Parce que je crois, après avoir vu certains essais, ça marche mieux avec certaines variétés. Mais en tout cas, le principe, c'est que les plantes entre elles cèdent. Et du coup, le maïs crée un support pour que le haricot puisse grimper. Ce sont des haricots grimpants. Le haricot, comme c'est une légumineuse, elle stocke l'azote de l'air et elle la redistribue dans le sol. Donc ça profite aux deux autres plantes. Elle crée un stock de fertilité comme ça. Et la courge, avec ses grandes feuilles, crée un ombrage en fait, pour ces deux autres consœurs. Et voilà, ces trois plantes fonctionnent vraiment bien ensemble. Et il y a des rendements supérieurs à une monoculture, en fait. Voilà. Quand je parle de chiffres ou de choses comme ça, c'est à mesurer, mais il y a eu des essais de fait et c'est très, très productif avec très peu d'efforts. Parce qu'en fait, voilà, ce type de jardinage propose moins d'efforts pour aller vers plus de rendement. Parce qu'on est dans des pratiques conventionnelles qui demandent beaucoup d'efforts pour peu de rendement. Voilà. Et après... tout ça, c'est pas des dogmes. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que le principal, c'est de faire ses propres essais. Voilà, on a des idées parce que tout ça, c'est quand même relié vraiment à la science. Et moi-même, j'ai des études scientifiques dans la biologie. Donc, c'est vraiment très compatible. C'est pas sorti de n'importe où. Et en même temps, le principal, c'est d'expérimenter chez soi, sur son sol, avec ses particularités, parce que tout est. Enfin, c'est comme les humains, on est différents. Et c'est important de se rappeler de ça et de voir les particularités.
Est-ce que vous pouvez aussi nous dire ce que c'est l'accueil des auxiliaires ?
Oui, du coup, l'accueil des auxiliaires, en fait, c'est favoriser un maximum d'espèces, surtout animales, du coup, dans ce cas-là, pour qu'elles puissent s'installer dans le jardin. Et l'idée, c'est de créer des niches, comme c'est dit souvent en permaculture, c'est-à-dire des conditions qui vont permettre, par exemple, aux hérissons d'arriver. Donc on peut leur construire un abri, on peut faire une mare pour attirer divers insectes et animaux. Et tout ce petit monde va faire que, justement, s'il y a des ravageurs qui viennent attaquer nos cultures, bah voilà, par exemple, les grenouilles vont manger les limaces et les hérissons aussi. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de favoriser le fonctionnement naturel. Et de plutôt que de lutter vers chaque limace et chaque individu dans notre jardin, voilà, on installe quelque chose de global et de très diversifié pour qu'il s'occupe de lui-même et qu'il n'y ait pas de disproportion de population en fait. Et après, nos cultures sont de plus en plus tranquilles.
Puis il y a des préparations aussi que vous proposez à base de plantes. Vous citez l'ortie par exemple, pour sa richesse en azote, je suppose. Alors l'ortie, c'est quand même la problématique. Il me semblait qu'il y avait une utilisation très limitée de l'ortie. Hein. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ?
Vous voulez dire dans la commercialisation ?
Oui, par exemple... Que l'utilisation de purin d'ortie est interdite à la consommation et du moins de la production qui en émane.
Ah oui, alors dans ce genre de pratique, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup de choses. Et moi, en tout cas, je montre comment on peut faire des purins d'ortie et de consoude et de plein d'autres plantes. Et je pense que c'est comme les semences, c'est-à-dire que si on les commercialise, là, il y a beaucoup de choses à respecter. Et comme les produits chimiques, enfin, juste les produits de synthèse sont de plus en plus interdits, maintenant, ils sont déjà derrière des vitrines. Donc, les enseignes fabriquent, en tout cas, vendent des purins. Et je pense que c'est beaucoup pour ça que c'est très réglementé. Mais savoir si c'est vraiment interdit de le faire chez soi, dans son jardin, j'en suis pas persuadé.
Non, pas du tout. Hein. C'est par rapport à la récolte qui n'est pas autorisée avec l'utilisation de purin d'ortie. Hein. Voilà, c'est une réglementation qui date au moins d'une dizaine d'années, je crois, même déjà.
Mais oui, et c'est vrai qu'on voit plein de choses sur le net, du coup. Et je sais pas, faudrait se renseigner vraiment concrètement sur les textes. Mais en tout cas, je pense qu'on peut faire plein de choses en coopération avec la nature sans enfreindre la loi.
Bon, mais tant mieux. Parce que c'est quand même naturel. Il n'y a rien de plus naturel qu'un purin, non ?
Ça, c'est sûr.
On va revenir un peu sur vous, Nicolas. Votre formation, donc, vous l'avez eue en partie avec Pierre Rabhi. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré dès le départ à vous consacrer au jardinage, à l'agriculture bio ?
En fait, ça réunissait tout ce qui... Tout ce qui, à ce moment-là, me portait vraiment, c'est-à-dire redonner un sens à mes études de biologie cellulaire, physiologie, et je me suis dit que ça serait vraiment un atout pour comprendre le vivant. Redonner un sens dans ce que je fais, voilà, tout ce que je fais dans mes pratiques, ce que je peux apporter aux autres. Et aussi la grande joie que j'ai à être dans le jardin et à m'occuper des plantes. Voilà, la grande... Je ressens une sorte de sérénité quand je fais ça. Et voilà, il y a beaucoup de sens pour moi dans ça. Et justement, comme je disais tout à l'heure, plutôt que de faire un boulot pour avoir juste de l'argent, si ça peut participer à quelque chose de plus utile pour le reste de la société, je pense que pour moi, ça a beaucoup plus de sens. Et si en plus c'est joyeux, tant mieux.
Alors, tous ces ateliers et animations sont proposés à tous les publics, hein, enfants, adultes, personnes âgées. Vous prenez l'intergénérationnalité dans ces activités ?
En tout cas, là, comme c'est pas démarré depuis très longtemps, je pourrais faire des ateliers intergénérationnels. Parce qu'en fait, en tant qu'animateur, j'ai pas mal d'années d'expérience et j'ai justement animé tous ces publics, que ce soit des enfants, aux adultes, jusqu'aux personnes âgées quand j'étais aide-soignant. J'ai fait beaucoup d'animations. Et donc, je peux m'adapter facilement. Et j'ai pas encore fait d'intergénérationnel, mais ça me plairait bien, ouais.
Avant de venir dans le Diwa, je ne sais pas où vous étiez, mais qu'est-ce qui vous a attiré dans le Diwa ? Est-ce que c'est pour vous le lieu idéal pour expérimenter et continuer cette recherche ?
En tout cas, dans le Diwa, ce qui m'a attiré, ce qui nous a attiré avec mon épouse, c'est déjà arriver et avoir l'impression que tout le monde nous voyait et comprenait notre langue. C'est-à-dire qu'on parlait tous français, mais même ailleurs. Mais ailleurs, c'était assez compliqué de se présenter et rien que de parler aux gens, en fait. Et dans le Diwa, il y a quelque chose de plus simple. J'ai le sentiment, dans la rue, on peut se parler. C'est pas comme dans certaines grandes villes où vraiment chacun est sur son smartphone. Et là, enfin, voilà, c'est ce qu'on a senti en arrivant, en tout cas. Il y avait quelque chose de différent. Et une grande diversité de personnes et de points de vue qui se passe de façon assez harmonieuse, et ça, c'est chouette.
Sinon, pour les auditeurs, vous avez un site internet où on peut voir aussi votre travail ?
Où on peut voir mon travail, c'est plutôt le site du réseau des animateurs de Terre et Humanisme, où il y a une présentation de ce que je fais. Et il n'y a pas encore vraiment de site avec mon travail exactement. Ça pourra venir, ouais.
Sinon, on peut citer peut-être l'adresse de ce site. Donc là, je vois réseau-aae.org/Nicolas-Lesage/. Voilà, ça c'est l'adresse donc pour vous renseigner. Et puis, si les auditeurs veulent prendre contact avec vous, comment font-ils ?
Pour prendre contact avec moi, c'est soit par téléphone, soit par mail. Donc le téléphone, c'est 06 63 53 21 02. Et le mail, c'est réenchanter, reenchanter@laposte.net.
Nicolas, tu proposes donc des animations, ateliers, stages. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va se dérouler et puis à quelle date ?
Oui, donc là, il y a eu 3 ateliers d'appel. C'est-à-dire que c'est pour proposer aux gens de venir goûter ce que je propose sur un format de 2 heures, donc plus réduit, parce qu'après, je propose un cycle d'ateliers mensuels qui démarre en novembre et qui, là, sera sur... un atelier mensuel, ça sera sur une demi-journée et ça sera sur un thème précis du jardin écologique. On peut appeler ça comme ça. Enfin, c'est le terme que j'ai décidé d'adopter vu que je puise dans l'agroécologie et la permaculture et dans d'autres pratiques aussi. Et du coup, la première séance, ça sera le 18 novembre et ça sera autour du compost. Voilà. Donc, il y aura une séance comme ça par mois. Après, on explorera. J'essaye de me caler sur la saison, en fait. Et comme là, c'est l'hiver qui arrive, ça sera plutôt la conception du jardin, comment faire son plan. Explorer un peu les outils permaculturels. Et là, du coup, j'inviterai des personnes qui sont assez expérimentées dans ce domaine. Et voilà, c'est pour essayer d'affiner et de proposer des techniques et une vision qui permettent d'aller vers quelque chose de productif et en même temps de respectueux de la nature. Voilà ce que je peux dire. Et pour le lieu, ça se passera principalement à Habitaire. C'est sur les Hauts-de-Die. Et je suis très heureux d'être là-bas parce que c'est un lieu qui me plaît beaucoup et en plus ça sera intégré au... C'est-à-dire que si on fait par exemple une butte de culture, ça sera intégré au lieu. Voilà. On ne va pas juste faire une démo pour faire une démo.
Vous utilisez le terme jardin écologique. Est-ce que vous ne trouvez pas dommage qu'on puisse citer un jardin écologique alors que À l'origine, c'était rien de plus naturel, non ? Alors, comment se justifier par rapport à une puissance industrielle ?
Bah justement, malheureusement, on est obligé. Enfin, j'aime pas dire on est obligé, mais je me suis senti. J'ai eu besoin de prendre ce terme pour justement faire une démarque et montrer que c'est différent. Ce qu'on propose dans ce genre de mouvance, en fait, permaculture ou agroécologie. Et vraiment. Voilà, je pense que c'est important de faire un retour vers ce genre de pratique et de vision de ce qu'on peut faire autour du jardin. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ce terme. Même si je préférais effectivement juste parler de jardinage, parce que ce serait la norme. Mais ce n'est pas le cas.
Et puis, est-ce qu'il y avait des recettes de grand-père que vous utilisez, vous, actuellement et, est-ce que c'est le cas ?
En fait, ce que je trouve génial dans ces approches, c'est que, voilà, même si je viens de dire que j'utilise un mot pour montrer ce que c'est, il n'y a pas grand-chose de banni, en fait, dans ces approches. C'est-à-dire que tout ce que faisaient les grands-pères peuvent être retenu et exploité dans le jardin. Même si j'ai dit que j'aimais pas le mot exploiter, mais récupérer pour aider nos pratiques. C'est-à-dire que vraiment, ce qui va être évité, c'est tout ce qui est produit de synthèse pure et aller vers moins en moins de travail de la terre en profondeur qui déstabilise la vie. Voilà, c'est un peu ça les grosses choses qu'on va éviter. Mais sinon, les grands-pères et les grands-mères aussi qui étaient dans les champs avaient parfois élaboré eux-mêmes plein de techniques basées sur l'observation de la nature. Et c'est très très important de garder ce patrimoine et de s'en servir parce qu'eux, ils connaissaient leur terre. Et ça, c'est précieux.
Voilà, et puis vous-même, donc, vous êtes autour des potagers rares. Hein. Comment est-il des potagers rares actuellement ? Là, c'est un peu l'automne et l'hiver qui arrivent, donc ça va être un petit peu calme.
C'est calme peut-être dans les jardins, mais en tout cas dans l'assaut, c'est pas très calme parce que, voilà, y a, avec tout ce qui se passe autour des contrats aidés et du salariat dans les associations, c'est très compliqué pour les potagers rares, comme peut-être pour la plupart des assos. Et il y a une réunion jeudi pour voir comment on peut faire sans salariés parce que là, ça va être un fonctionnement différent. Et. Voilà, donc ça va demander une réorganisation si on veut que les jardins perdurent. Et voilà, donc là, il y a plein de choses d'ouvertes et cette réunion va être l'occasion d'apporter des idées et de pouvoir essayer de faire autrement peut-être. Voilà.
Simplement aux éditeurs, je dirais que cette émission étant enregistrée la veille de cette réunion et qu'elle sera diffusée bien après la date de cette réunion, donc ne tenez pas trop compte de cette réunion. Est-ce que, mis à part ce problème des contrats aidés, vous aviez des perspectives ou des objectifs autour des potagers rares ?
En fait, chez les potagers rares, il y a les jardins partagés. Je pense qu'il y a une fluidité et il y a pas mal de gens qui sont impliqués dans les jardins partagés. Ça tourne bien et il y a les jardins familiaux qui sont une proposition de parcelle en fait pour expérimenter soi-même. On jardine pas forcément avec les autres. Là, on peut faire différentes choses sur sa parcelle. C'est un peu ce que je fais moi. Comme ça, je peux tester des choses aussi. Et bon, voilà, l'année dernière, il y avait Gabrielle, qui est animatrice, qui a fait la même formation que moi, qui était sur la partie jardins familiaux. Et cette année, Gabrielle n'était plus là, en fait, pour s'occuper seulement de ses jardins. Et donc ça s'est ressenti, c'est-à-dire que je pense que c'est le début du processus, justement, comme il y a moins de moyens. Il y a besoin de s'organiser autrement. Et en tout cas, on sent que. Enfin, moi, je pense qu'il va falloir aller vers quelque chose de plus neuf. Et d'ailleurs, je salue Sylvère et Thibaut qui ont fait un super travail cette année. Mais le potager, c'est assez gros et être à deux pour tout gérer, c'est assez complexe. Moi, je pense que vraiment les adhérents vont pouvoir peut-être faire des choses, s'impliquer peut-être un peu plus pour certains et voir qu'une asso, c'est ensemble. Voilà.
Eh bien, je crois qu'on a fait le tour hein, de Réenchanter, donc par Nicolas Lesage. Et puis, eh bien, Nicolas, bonne soirée et à bientôt.
Bah, merci, bonne fin de journée.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1 Terre View.
Okay, the bird.